Laudetur Jesus Christus.
Une nouvelle phase dans la guerre contre le Hamas semble s'amorcer. Les autorités israéliennes somment 100 000 personnes de quitter l'est de Rafah. Des milliers de civils seraient en fuite ce soir. Ces préparatifs d'offensive ne font aucun cas du sort des otages, souligne le Hamas. Washington dénonce la rhétorique irresponsable de Moscou. Le président russe ordonne des exercices nucléaires près de la frontière ukrainienne. Il montre des muscles après les propos d'Emmanuel Macron sur le possible envoi de soldats de l'OTAN en Ukraine. Le président français qui reçoit ce lundi son homologue Xi Jinping chinois à l'Elysée, Pékin est appelé à apaiser son allié russe et à jouer selon les règles économiques équitables pour tous par Paris et Bruxelles. Et puis enfin dans ce journal, nous irons au Tchad en ce jour d'élection présidentielle.
Radio Vatican, le journal, Marie Duhamel.
Bonsoir à tous. Au Proche-Orient, l'espoir d'une trêve est maintenant enterré. Israël s'apprête en effet à mener son offensive sur Rafah, une ville où sont réfugiés plus d'1 200 000 Gazaouis. Des tracts ont été lâchés sur l'est de la ville demandant à la population de fuir, une zone que tâche donc de quitter des milliers de personnes sous la pluie et parfois même sous des bombes comme dans les quartiers de Al-Salam et Al-Shouka. On fait le point sur la situation avec Valérie Ferron à Jérusalem.
Depuis le début de la matinée, une partie des dizaines de milliers de familles installées dans des tentes à Rafah se dirigent vers les zones dites humanitaires via des routes censées être sécurisées après avoir reçu des ordres d'évacuation de la part de l'armée israélienne. Ces ordres ne concerneraient que les quartiers orientaux de la ville de Rafah où Israël veut lancer une opération terrestre limitée. L'armée a assuré que les familles trouveront dans les zones désignées des services de base et des vivres. Ces évacuations interviennent au lendemain de la mort de 4 soldats tués par des tirs de roquettes du Hamas sur une position militaire israélienne près d'un point de passage d'où transite l'aide humanitaire. Les soldats gardaient du matériel acheminé en prévision de l'opération terrestre promise par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, indépendamment des négociations pour un cessez-le-feu et un échange de prisonniers. Le Hamas dénonce des développements dangereux qui auront des conséquences. La présidence palestinienne de son côté dénonce un plan d'invasion correspondant à de nouvelles tentatives de génocide et d'expulsion d'1,5 million de citoyens palestiniens. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
Ce soir, l'autorité palestinienne appelle Washington à empêcher un massacre. Ce sont ces mots à Rafah. La Maison-Blanche annonce un entretien téléphonique entre le président Biden et Benjamin Netanyahou. Washington, présenté comme le dernier acteur ayant la main sur les décisions d'Israël, mais sur place aux États-Unis, on craint encore de potentiels débordements dans les campus. L'université de Columbia, où étudiants et activistes pro-palestiniens ont été évacués fin avril. La grande cérémonie de remise des diplômes n'aura pas lieu cette année. Et en France, on est cette fois dans les locaux de Sciences Po. La police a délogé aujourd'hui des militants de leur tente au moment même où les étudiants passaient leurs examens. Et puis sur l'exportation du conflit à Gaza, on se souvient des drones lancés par Téhéran sur Israël mi-avril, des représailles probablement de Tsahal sur une base iranienne située non loin d'une centrale nucléaire près d'Ispahan. Et c'est là que ce soir se trouve le chef de l'Agence internationale pour l'énergie atomique. Sa première visite depuis un an, l'AIEA a pour tâche de vérifier le caractère pacifique du programme nucléaire iranien. Or, depuis 3 ans, les inspections ont été fortement réduites, les caméras de surveillance débranchées et l'accréditation d'un groupe d'experts a été retirée. C'est le pays le plus pauvre de la péninsule arabique et il se trouve lui aussi impliqué dans le conflit au Proche-Orient avec des tirs de Houthis sur la mer Rouge. Ce soir, 200 ONG appellent à voir plus loin. À la veille d'une journée des donateurs à Bruxelles, ils espèrent réunir les 2,3 milliards de dollars manquants pour financer l'aide cette année dont auront besoin plus de 18 millions de Yéménites. Au son des tambours et des trompettes, le président français a souhaité la bienvenue cet après-midi à Xi Jinping à Paris. Cérémonie aux Invalides et banquet ce soir à l'Élysée pour marquer les 60 ans des relations diplomatiques entre Pékin et Paris. Mais avant les célébrations bilatérales, une table ronde UE-Chine en présence d'Ursula von der Leyen. Les Européens étaient soucieux de montrer un front uni sur les questions commerciales. Emmanuel Macron apprenait des règles équitables pour tous, tandis que la patronne de l'exécutif bruxellois exigeait un égal accès au marché. Xi Jinping appelait aussi à tempérer les velléités de son allié russe en Ukraine. Les précisions de Marie-Christine Bonzon.
À l'issue d'une réunion trilatérale, Ursula von der Leyen a déclaré qu'elle et Emmanuel Macron ont appelé Xi Jinping à, et je cite, « user de toute son influence sur la Russie pour faire cesser la guerre en Ukraine ». La présidente de la Commission européenne et le président français ont aussi demandé au président chinois, et je cite à nouveau, de faire plus d'efforts pour limiter la livraison à la Russie d'équipements civils qui peuvent être utilisés à des fins militaires et qui se retrouvent sur le champ de bataille en Ukraine. Avant un entretien en tête-à-tête avec Emmanuel Macron dans l'après-midi, Xi Jinping a dit vouloir, et je cite le président chinois, « œuvrer avec la France et toute la communauté internationale à trouver de bonnes pistes pour résoudre la crise en Ukraine ». La visite de Xi ne fait pas l'unanimité en France. Les exilés tibétains et ouïghours ont manifesté hier pour fustiger une visite incompréhensible. Reporters sans frontières a manifesté aujourd'hui pour rappeler que 119 journalistes sont détenus en Chine. Pour sa part, Raphaël Glucksmann, tête de liste du Parti socialiste aux élections européennes, reproche à M. Macron d'établir, je cite, « une relation d'amitié avec un dictateur qui est le principal sponsor de la guerre de Poutine en Ukraine ». Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
Bruxelles et Paris pressent Pékin d'user de toute son influence sur la Russie pour stopper la guerre, mais rien n'est moins sûr. Ce matin, Moscou a annoncé que des manœuvres de ses forces nucléaires se déroulaient prochainement à proximité de la frontière ukrainienne. Une réaction forte, immédiate aux menaces proférées ces derniers jours par le président français et le chef de la diplomatie britannique à Moscou, Jean-Didier Revoin.
Vladimir Poutine a ordonné la tenue de manœuvres pour entraîner les forces armées à la préparation et à l'utilisation d'armes nucléaires non stratégiques. Si on ne connaît pas la date de ces exercices, on sait en revanche que l'aviation, la marine et des forces du district militaire du Sud y participeront, des troupes basées à proximité immédiate du territoire ukrainien. Moscou répond donc par la surenchère à la possibilité évoquée par Emmanuel Macron d'envoyer des soldats de l'OTAN combattre aux côtés des forces ukrainiennes, une façon aussi de mettre Kiev en garde directement. Moscou est prêt à répondre si d'aventure les autorités ukrainiennes décidaient de frapper le territoire de la Russie à l'aide de missiles britanniques en vertu du feu vert octroyé par le chef de la diplomatie du Royaume-Uni, James Cameron, la semaine dernière. Force est de constater que l'escalade se poursuit avec toujours plus d'intensité pour défendre la souveraineté de la Russie, alors que sur le front, les troupes ukrainiennes cèdent du terrain et que des armes nucléaires tactiques russes ont été déployées au Bélarus l'été dernier. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
Non, la France n'a pas envoyé de troupes en Ukraine. Sur X, ex-Twitter, le Quai d'Orsay dément à nouveau les dires véhiculés dans une nouvelle campagne de désinformation. La Russie, accusée par Berlin et Prague de cyberattaque, l'Allemagne a rappelé son ambassadeur à Moscou pour consultation aujourd'hui. La République tchèque, elle, convoque le représentant du Kremlin sur son territoire. Et puisqu'on parle de cyberattaque ce lundi, l'eurodéputé François-Xavier Bellamy a annoncé avoir porté plainte. Il aurait été la cible d'un groupe de hackers lié, selon Washington et Londres, au gouvernement chinois. François-Xavier Bellamy est la tête de liste de la droite en France pour les élections européennes. Au Vatican, le pape a reçu 34 jeunes gardes suisses qui ont prêté serment aujourd'hui, ainsi que leurs familles. Le pape a salué leur haut niveau de motivation, de volonté de servir, les a exhortés à cultiver activement et intensément la vie communautaire. Ils sont donc 34 cette année. Plus de détails sur notre site internet. Jour de présidentiel au Tchad, les électeurs votent pour mettre fin à 3 ans de pouvoir militaire. 10 candidats sont en lice, mais le vote met en scène un duel inédit entre le chef de la junte, le général Mahamat Idriss Déby Itno, et son premier ministre, Succès Masra, un ancien opposant rallié à son régime. Que peut-on attendre des résultats de ces élections? La réponse du docteur Évariste Ngarlem Toldé, il est enseignant-chercheur à l'université de N'Djamena.
Pour certains, c'est une formalité. Pour certains, c'est vrai. Il semble que le président sera reconduit facilement. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a eu une volonté de changement qui s'est affichée avec les meetings populaires qu'il y a eu, avec les foules qui se sont amassées derrière le Premier ministre. Donc, il y a une réelle volonté de changement avec cette campagne. Et le Premier ministre a su drainer des foules. Et c'est cette volonté de changement que l'on voit de plus en plus. Mais aussi, on craint que le président puisse également se faire élire dès le premier tour par l'Agence nationale de gestion des élections, une agence qui gère donc le processus et à la tête de laquelle se trouve donc un cacique du pouvoir. C'est les gens craignent que d'un côté comme de l'autre, que ce soit le président ou son premier ministre, que les deux se déclarent tous les deux vainqueurs de cette élection. Donc, volonté de changement pour les uns, volonté de se maintenir pour les autres. Et la tendance est un peu difficile à trancher, mais ça serait difficile que quelqu'un puisse gagner dès le premier tour.
Des propos recueillis par Jacques Ngol. Enfin, au Mali, le chef de la junte, le colonel Goïta, a lancé aujourd'hui à Bamako la phase nationale de concertation censée produire sans intervention étrangère des solutions pour sortir le pays de la crise dans laquelle il est plongé depuis des années maintenant. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité du monde et de l'Église dans le monde revient demain matin à 8h30. Excellente soirée à tous.